Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre aux Hébreux, chapitre 2. Nous allons continuer notre étude de ce livre. Et nous allons lire à partir du verset 10, mais nous nous focaliserons sur les versets 14 à la fin du chapitre. Mais lisons à partir du verset 10. Hébreux, chapitre 2, à partir du verset 10, voici donc la parole de Dieu. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, ait élevé à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères, lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Et jusque-là, la parole de Dieu. Tout au long de son histoire, l'Église a été attaqué par des faux enseignements, par des hérésies. Et la plupart des hérésies, au temps de l'Église primitive, concernaient d'une manière ou d'une autre la personne du Seigneur Jésus-Christ. D'une part, il y avait ceux qui niaient la divinité du Seigneur Jésus-Christ, comme Arius, prédicateur venant d'Alexandrie en Égypte, et ses disciples, les Ariens, soutenait que, aussi grand que soit le Seigneur Jésus, il était toujours inférieur au Dieu éternel, au Dieu tout-puissant. Il y avait d'autre part ceux qu'on appelle les docètes, qui vient du mot grec dokeo, qui signifie paraître ou sembler être. Et les docètes soutenaient que, bien que le Seigneur Jésus divin a pu apparaître comme un homme, il ne l'était pas. Et bien, il disait, entre autres, qu'il aurait été indigne pour Dieu de prendre notre humanité, et encore moins de mourir dans la honte et dans la faiblesse sur une croix. Mais l'Église a répondu à ces erreurs, à ces hérésies, et le premier concile de l'Église à Nicée en l'an 325 a traité de ces questions, et ce concile a condamné l'arianisme comme une hérésie en affirmant la pleine divinité et la pleine humanité du Seigneur Jésus-Christ. Le symbole de Nicée, parfois appelé le symbole de Nicée-Constantinople, décrit le Seigneur Jésus-Christ comme le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré et non créé, d'une même substance que le Père, par qui tout a été fait, et qui pour nous les hommes et pour notre salut est descendu des cieux, s'est incarné par le Saint-Esprit dans la Vierge Marie et a été fait homme. Voilà la réponse de l'Église, et bien plus tard, ça a été repris d'autres manières, mais toujours pour souligner cette même réalité, le petit catéchisme de Westminster par exemple, par le Fils éternel de Dieu qui s'est fait homme, de la manière suivante, Christ, le Fils de Dieu, s'est fait homme en prenant un vrai corps, une âme raisonnable ayant été conçue par la puissance du Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie, est née d'elle sans péché. Mais la lettre aux Hébreux a déjà répondu aux deux aspects de cette controverse. La pleine divinité du Seigneur Jésus-Christ a été soulignée dans le chapitre 1 de cette lettre. Le verset 8 dit du Seigneur Jésus-Christ, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. » Comme déclaration de divinité, il n'y a pas plus clair. « Ton trône, ô Dieu, » ça s'adresse au Seigneur Jésus-Christ. Et le chapitre 2, qu'on a déjà vu, le début du chapitre 2, parle très clairement de l'autre côté de l'équation. Les versets 10 à 13 ont montré à quel point le Seigneur Jésus-Christ s'est identifié à notre humanité. Il s'est fait un avec ceux qu'il sauve, en allant jusqu'à s'équiper pour accomplir cette tâche par la souffrance. Et les versets que nous voulons voir ce matin continuent en donnant encore plus de preuves pour mettre en évidence l'humanité du Seigneur Jésus-Christ. Le verset 14 dit qu'il a participé au sang et à la chair. Le verset 17 dit qu'il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Celui qui est pleinement Dieu, le Fils même, du Dieu du ciel, a souffert, a été tenté en tant qu'homme, comme le dit le verset 18. Et c'est le thème de ces versets devant nous, la pleine humanité de Jésus-Christ dans son œuvre de sauveur divin. En partant de cette vérité, l'auteur de cette lettre en tire ses implications, en précisant les raisons pour lesquelles le Fils de Dieu s'est fait homme, en détaillant aussi les résultats de cette œuvre qui a commencé dans l'éternité et qui dans l'histoire a commencé dans la naissance pleine d'humilité dans l'étable de Bethléem. Et l'auteur souligne dans ces versets trois grands aspects de l'œuvre du salut du Seigneur Jésus-Christ. La première chose, c'est qu'il a brisé l'emprise du diable. Il a libéré l'humanité captive. Deuxièmement, il a fait la propitiation de la colère de Dieu contre notre péché. Troisièmement, il est devenu un souverain sacrificateur, miséricordieux et compatissant, qui peut secourir, capable de secourir, qui peut secourir nous qui aujourd'hui souffrons sous l'épreuve de la tentation. Le premier grand point, la mort a été vaincue. Le passage commence au verset 14. « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas des anges qu'il vient en aide, mais c'est dans la postérité d'Abraham. » La raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde en tant qu'homme. Et son but, nous dit l'auteur, est défini par deux verbes clés. Le premier, c'est rendre impuissant ou détruire, dans certaines versions. Le Seigneur Jésus-Christ est venu rendre impuissant, détruire la puissance d'un tyran qui maintenait l'humanité en esclavage. Ce tyran n'est autre que le diable. Le second verbe est délivré. Comme Moïse dans l'Exode, le Seigneur Jésus-Christ est venu libérer son peuple. C'était le but de l'incarnation. Mais s'il y a ces deux verbes, l'auteur nous dit aussi le moyen par lequel le Seigneur Jésus-Christ a remporté cette victoire. C'est par sa mort sur la croix. Si quelqu'un demande pourquoi Jésus est-il venu dans le monde, la réponse est là, il est venu pour mourir, afin que par sa mort, il renverse la domination de Satan, qu'il libère les captifs. Plusieurs grandes déclarations sont faites ici, et ça commence par la description de la condition de l'homme sous le péché. Les hommes, nous dit l'auteur, sont par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude, verset 15. Bien sûr, l'oppresseur, le diable, l'auteur nous dit, avait la puissance de la mort. Quand le diable a séduit les premiers parents, Adam et Ève, quand il les a séduits dans le péché, il les a amenés sous la malédiction de la mort. C'était le jugement que Dieu avait prononcé, le châtiment que Dieu avait annoncé pour la désobéissance. Genèse 2, verset 17, « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Et depuis, le diable et les siens tourmentent l'homme par la peur de la mort. C'est le sort de notre race. Un commentateur dit ceci, « La soumission sans espoir à la mort caractérise l'existence terrestre en dehors de l'intervention de Dieu. De plus, la présence de la mort se fait sentir dans l'expérience de l'anxiété. » La peur de la mort, c'est une chose à laquelle l'humanité est encore confrontée aujourd'hui. Quelle part de notre agitation, de notre frénésie pour le divertissement est principalement une tentative de détourner notre regard des ombres que la mort projette dans notre vie. La mort, ce n'est pas seulement un événement qui nous attend, c'est une puissance. C'est le levain de la futilité qui imprègne nos réalisations, qui empêche le contentement, qui empêche la paix de nos âmes. Et on a donc une déclaration claire du problème que le Seigneur Jésus-Christ est venu résoudre. C'est de là qu'il nous sauve. Pas seulement du malheur, pas seulement du dysfonctionnement ou de l'échec dans la vie. Ce dont nous avons besoin d'être sauvés, beaucoup plus grand, c'est le règne complet de la mort à cause du péché. Un règne qui tient l'humanité en esclavage, par dans la peur, qui à la fin de notre vie nous afflige de l'expérience de la mort, qui au-delà de la tombe nous voit condamnés devant le trône du jugement d'un Dieu saint. La mort est le problème dont nous devons être sauvés. Et la mort est aussi ce que le Seigneur Jésus-Christ a vaincu par son œuvre. Il a brisé la puissance du diable. Il nous libère de la puissance du diable par sa mort, sa propre mort sur la croix. En prenant nos péchés sur lui, le Seigneur Jésus-Christ a enduré la colère de Dieu que nous méritons. Sur la croix, le Seigneur Jésus-Christ, comme le dit l'apôtre Paul en 2 Timothée 1, verset 10, le Seigneur a réduit la mort à l'impuissance. Il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est lui qui, le Seigneur Jésus-Christ, qui a remporté la victoire sur notre plus grand ennemi, par sa mort sur la croix. Est-ce que nous sommes tenus en esclavage par le spectre de la réalité de la mort? Bien qu'on doive affronter la mort, est-ce qu'on est libre des chaînes de la peur? Sachant que pour nous, la mort est la porte de la vie éternelle, dans la gloire, l'entrée dans la gloire. Si on se repose sur le Seigneur Jésus-Christ, on a été libéré de l'aiguillon de la mort. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour son peuple sur la croix. Il nous a libérés de la peur de la mort. Par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, on peut exulter dans sa victoire avec les paroles de l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 15, versets 54 et suivants. « La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire. » Par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, versets 54 et suivants. Et Jean Calvin écrit, « De cette crainte, le Christ nous a délivrés, qui, en subissant notre malédiction, a ôté ce qui est terrible dans la mort. » Car bien que nous ne soyons pas maintenant libérés de la mort, pourtant dans la vie et dans la mort, nous avons la paix et la sécurité lorsque Christ nous précède. Mais chaque fois que l'on parle de la mort du Seigneur Jésus-Christ sur la croix, on doit comprendre qu'il y a deux parties impliquées. Il y a le pécheur et il y a Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul écrit en 1 Timothée 2, verset 5, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » On a déjà vu une raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ s'est fait homme, à savoir mourir et ainsi nous libérer de la mort. Il y a aussi Dieu le Père à considérer. Dans sa sainteté, Dieu ne peut pas accepter les gens qui sont souillés par le péché, qui sont corrompus, à la fois en tant que race, mais aussi en tant qu'individu. Et le verset 17 traite de cet aspect de la mort du Seigneur Jésus-Christ. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Et c'est le deuxième grand point. Le premier, la mort a été vaincue. Le deuxième grand point, la propitiation a été faite. On a dit au début que les controverses sur les natures divines et humaines du Seigneur Jésus-Christ ont causé quelques-unes des batailles clés dans l'histoire de l'Église. Et ce verset 17 donne une explication classique sur la raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ devait devenir pleinement homme. C'est afin qu'il puisse accomplir le service sacerdotal devant Dieu au nom de l'homme, au nom de son peuple, et ainsi faire la propitiation, c'est-à-dire détourner la colère de Dieu, cette colère qui est dirigée contre nous, contre notre péché. Alors notre version utilise le terme expiation. Je ne vais pas entrer dans trop de détails, simplement dire que le terme expiation, il n'y a pas de notion relationnelle. Le terme d'expiation s'adresse au péché, à l'offense. Le coupable doit payer pour l'offense, ou alors un substitut doit souffrir ou mourir à la place comme conséquence du péché. Ça concerne le péché, ça concerne l'offense. Quand on parle de propitiation, il y a une notion relationnelle, à savoir la relation de Dieu avec l'homme. Quelque chose doit être fait pour écarter la colère de Dieu, cette colère qui est dirigée contre l'être humain à cause de son péché. Mais écarter la colère tout en satisfaisant la justice de Dieu. Le péché doit être puni. Dans beaucoup de milieux, on n'aime pas l'idée d'un Dieu en colère. Et on cherche à éloigner cette notion. Mais le terme qui est utilisé ici, c'est bien le terme propitiation. Et l'explication classique a été donnée par Anselme de Canterbury au XIe siècle dans une œuvre appelée « Cur Deus Homo » qui se traduit simplement par « Pourquoi Dieu est devenu homme ?» Et en parlant du paiement qui doit être fait, Anselme écrit « Cela n'aurait pas pu être fait si l'homme n'avait pas payé ce qui était dû à Dieu pour le péché. » Mais la dette était si grande que, tandis que l'homme seul la devait, seul Dieu pouvait la payer. De sorte que la même personne devait être à la fois homme et Dieu. Il fallait donc que Dieu introduise l'humanité dans l'unité de sa personne afin que celui qui, dans sa propre nature, devait payer et ne le pouvait pas, pouvait être dans une personne qui pourrait payer. Et c'est ce que l'auteur dit ici au verset 17. Jésus-Christ a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle. Jean-Claude a lu ce passage en Exode 28. Les souverains sacrificateurs de l'Ancien Testament avaient deux fonctions. L'une, c'était de représenter Dieu devant l'homme. C'est pour ça qu'ils avaient des vêtements qui étaient resplendissants, des vêtements de gloire, d'honneur, des vêtements éclatants pour dépeindre la perfection de Dieu, la justice de Dieu, la sainteté de Dieu devant les hommes. Mais tout aussi important, le souverain sacrificateur représentait l'homme devant Dieu. Et c'est pour ça que le souverain sacrificateur portait un éphod d'or sur lequel étaient fixées 12 pierres portant le nom des 12 tribus d'Israël. Et le Seigneur Jésus-Christ s'est fait homme pour porter nos noms, pour porter les noms de son peuple sur lui. Il est le véritable souverain sacrificateur. Il est vêtu de sa propre justice et qu'il présente en notre nom. Il est monté au ciel comme notre souverain sacrificateur, notre représentant. Il a offert son sang précieux. Il a offert sa vie divine, infiniment précieuse, qui seule pouvait expier les péchés du monde, payer la dette de notre péché. Il a fait la propitiation, il a écarté la colère de Dieu qui était sur nous, et il l'a prise sur lui à cause de nos péchés. Et c'est pour ça qu'il est né dans ce monde, afin que par sa mort, en tant que Dieu et homme, il puisse briser l'emprise de la mort, il puisse nous libérer, tout en faisant la propitiation de la sainte colère de Dieu contre nos péchés. Il a fait la propitiation. On dit qu'il y a trois raisons pour lesquelles Dieu le Fils devait devenir homme. Le premier, c'était de nous libérer de l'esclavage de la mort. Le second était de faire la propitiation de la colère de Dieu. La troisième raison nous est donnée au verset 18. Car du fait qu'il a souffert lui-même, qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Et c'est le troisième point. Il peut secourir. Le Seigneur Jésus-Christ est parfaitement adapté pour nous aider dans notre lutte contre la tentation du péché, le désespoir, parce que lui-même a traversé ces épreuves. Et c'est encore là une grande preuve de son humanité, de sa pleine humanité. Il a souffert lui-même. Il a été tenté. On pense naturellement aux tentations du Seigneur Jésus-Christ dans le désert, tenté par le diable. Le Seigneur Jésus était affligé d'une grande faim. La tentation, c'était d'accepter la couronne sans la croix. C'était sûrement de grandes tentations, et le Seigneur les a surmontées. Mais il ne faut pas négliger toutes les tentations auxquelles il a été exposé pendant toute son existence terrestre. Tentations qui auraient interagi avec tous les aspects de sa nature humaine. Et à cause d'eux, le Seigneur sait exactement ce que nous traversons. Il sait ce que c'est d'être tenté, parce que lui-même a vécu ces choses. Lui-même a été tenté comme nous. Notre souverain sacrificateur a une réelle sympathie, une réelle compassion pour ce que nous traversons. Alors certaines personnes objectent que le Seigneur Jésus ne connaît pas toute l'expérience humaine parce qu'il n'était pas pécheur. Ces personnes disent que sans l'expérience de la corruption du péché, il ne peut pas avoir une pleine sympathie avec nous. Mais la réponse est tout le contraire. Le Seigneur Jésus en sait beaucoup plus sur la tentation que nous, parce qu'il a enduré bien au-delà du point où le plus fort d'entre nous cède à l'épreuve. Un commentateur écrit ceci: la sympathie envers le pécheur dans son épreuve ne dépend pas de l'expérience du péché, mais de l'expérience de la force de la tentation du péché, que seul celui qui est sans péché peut connaître dans toute son intensité. Celui qui tombe cède avant la dernière pression. Le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais cédé, il n'est jamais tombé. Il a une sympathie réelle pour ceux qui sont tentés. C'est pour ça que l'Écriture nous dit qu'il est capable, il peut secourir. Quelle merveilleuse combinaison nous avons devant nous. D'un côté, nous avons celui qui est puissant pour sauver. Il n'est pas juste comme nous, il est bien plus. Il est le Rédempteur. Nous, nous sommes des pécheurs qui avons un si grand besoin d'un Rédempteur. Mais son œuvre n'est pas impersonnelle, n'est pas quelque chose de mécanique. Son œuvre est sincère, est sensible. Il a été fait comme nous. Dans son expérience de douleur, dans son expérience de souffrance, dans son expérience de tentation, il a senti les clous alors qu'ils étaient enfoncés dans ses mains et dans ses pieds, qu'il allait donner sa vie pour nous libérer. Il y a une qualité de miséricorde à l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ qui est intime, qui est personnelle, qui est consciente. Elle nous appelle à aimer ce Sauveur, ce Dieu qui s'est donné tant de mal pour nous connaître dans nos épreuves, pour avoir la communion dans nos souffrances, alors même qu'il nous appelle dans la communion de ses souffrances. Et tout cela met en avant le fait que le Seigneur Jésus-Christ peut secourir. Il est capable de comprendre ce que l'on traverse. Il est capable de nous entendre avec un cœur compatissant, un cœur plein de miséricorde lorsqu'on crie. C'est un encouragement pour nous dans toutes les épreuves, toutes les tentations que nous pouvons connaître, de venir à lui, de courir à lui dans la prière. Parce qu'il est capable, il peut nous délivrer. On peut donc lui faire confiance, sachant que la mort ne nous fera pas de mal, mais au contraire, elle nous fait entrer dans la gloire avec lui. On peut lui faire confiance aujourd'hui dans nos tentations, dans nos luttes actuelles, parce qu'il est capable de nous aider. Il est assis à côté de son Père, il intercède en notre faveur, il nous donne la force par son Esprit. C'est pour ça que l'apôtre Paul peut écrire en Galates 2, verset 20, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Malgré toutes les épreuves de l'apôtre Paul, c'est avec la connaissance de la puissance actuelle du Seigneur Jésus-Christ qu'il peut déclarer en Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Le Seigneur Jésus-Christ, le propre Fils de Dieu, est devenu comme nous pour être un sauveur total, un sauveur suffisant, pleinement suffisant pour toute la variété de nos besoins. Voilà pourquoi les plaintes de ce monde contre Dieu sont creuses, sont sans fondement. Les gens disent, en se lamentant dans ce monde de malheur, où est Dieu? Pourquoi est-ce que Dieu ne fait pas quelque chose? Alors que pendant ce temps, Dieu a tout fait. Même plus que cela. Il a fait plus que ce que nous pourrions demander, ce que nous pourrions imaginer. Dieu est entré dans ce monde. Il a marché à travers la poussière de ce monde. Celui qui est la vie a pleuré devant la tombe. Celui qui est le pain de vie a ressenti la douleur de la faim dans son ventre. Y a-t-il quelque chose de plus beau que les scènes du Seigneur Jésus-Christ qui mange avec les faibles, les fatigués, les pécheurs, les publicains? Il a pris les épines qui affligent ce monde marqué par le péché, il les a tissées en une couronne pour être pressées sur sa tête. Il a ouvert ses bras en signe d'amour afin que les mains qui ont tissé la création soient clouées sur une croix. Mais il est ressuscité. Il a vaincu. Il est ressuscité d'entre les morts. Il a conquis tout ce qui nous écrase. Il nous a libérés pour vivre dans la paix, dans la joie devant Dieu. Et tout ce que Dieu a fait dans cette œuvre rédemptrice du Seigneur Jésus-Christ a été fait non pas pour les anges, mais pour nous. C'est comme nous qu'il est devenu. C'est pour nous qu'il est mort. C'est avec nous qu'il sympathise aujourd'hui. Il connaît notre lutte, il connaît nos épreuves. Il peut secourir. Que nous puissions dire avec l'auteur d'un cantique ce refrain: sur toi je me repose, ô Jésus, mon Sauveur. Faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? Regardons à Jésus-Christ seul. Il a vaincu la mort. Il a fait la propitiation. Il est maintenant capable, il peut secourir ceux qui sont tentés. Que Dieu nous aide à saisir, à comprendre ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.